L'écho d'Afrique sur RCL.
Aïe, 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 aïe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir. Je ne sais pas si vous entendez le sourire, mais nous sommes tellement contents d'être ici aujourd'hui. Ce matin, notre première émission à la radio RCN. Je me présente, moi c'est Ayebou Afianké. Allez, appelez-moi Coco. Et je serai justement accompagné de Roméo. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du thème de l'intégration des étudiants sur Nancy. Je te laisse la parole, Roméo.
Alors bonjour à tous, moi c'est Roméo, effectivement, étudiant sur Nancy, d'où le thème d'aujourd'hui. Et comme mon collègue l'a dit, nous sommes très très heureux de commencer cette émission à RCN, à la radio RCN. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie justement d'un ancien étudiant avec nous, qui nous a fait le plaisir de venir nous raconter son histoire. Il est accompagné de sa chérie aussi, qui vient de Martinique. On va les laisser se présenter.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je me présente, c'est Monsieur Ems, étudiant sur Nancy, alors depuis un moment. Et effectivement, c'est avec plaisir que je me présente sur cette émission pour parler de l'intégration africaine et de tout ce que nous pouvons citer de plus. Et je laisse ma chérie aussi se présenter à vous. Merci.
Alors bonjour à tous, je suis enchantée d'être là aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Béja, j'ai 26 ans et je suis étudiante ici à Nancy. Nous allons parler, comme mes collègues l'ont dit, de l'intégration des étudiants à Nancy. Donc voilà, nous allons poursuivre.
Merci beaucoup à vous tous. Bienvenue à cette émission, Ames.
Merci. Merci.
Ça nous fait tellement plaisir d'enfin d'avoir une radio qui nous donne finalement la parole, l'opportunité de pouvoir nous exprimer, de dire les choses qui sont peut-être pensées depuis des années maintenant, ouais, à une radio. Oui. Donc la première question, si mon collègue me permet, que moi je voudrais vous poser, c'est comment déjà vous êtes arrivé en France? Le projet de dire qu'on vient sur Nancy, est-ce que c'est quelque chose qui est venu vous trouver à tout hasard ou vous avez vraiment mûri ça et que vous êtes arrivé préparé?
Oui, alors pour commencer, ouais, le projet à venir sur Nancy, à la base, c'était pour rejoindre la famille, parce que j'ai de la famille qui habite sur Nancy. Et aussi, oui, dans le cadre d'un avenir meilleur, parce que, comme vous le savez, moi, je suis étranger. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit, alors je suis né à l'étranger. Et c'est triste de le dire, mais ouais, depuis très longtemps, nous manquons de beaucoup de moyens en Afrique, et que ce soit en infrastructure ou sur le plan équipement, laboratoire ou tout ce qui a à voir avec les études, les longues études, donc obligées, tout comme chaque noir qui cherche un meilleur lendemain. Nous faisons le voyage, nous prenons le risque de partir loin, d'aller chercher les informations, d'aller se construire. C'est dans cette optique aussi que je me suis retrouvé sur Nancy, parce que j'en ai entendu parler, c'est une ville des étudiants, c'est une très grande ville déjà, et je suis content d'être là et de faire partir de tous les ressortissants.
Nancyens.
Merci.
Et ta chérie, pareil, tu peux nous dire un peu sur ton parcours?
Alors moi, mon parcours, j'ai été en région parisienne.
D'accord.
Donc j'ai commencé là-bas. Et puis pour un rapprochement aussi familial, je suis venue à Nancy et j'ai voulu poursuivre
bien
mes études alors ici.
Donc Paris, Nancy, ça change quand même?
Oui, ça change un peu.
Donc vous avez d'abord fait la capitale avant la province?
Exactement.
Ce qui n'est pas souvent forcément donné à tous les étudiants. Donc on a sur ce plateau des personnes riches en parcours. Je me tourne vers Roméo, qui lui-même est un étudiant, de nous dire comment finalement son projet s'est construit.
Alors moi, comme MMS l'a dit, comme tout Africain qui cherche un avenir meilleur, je suis venu en France après mes études, après avoir eu mon bac. Donc moi, je viens du Rwanda, pour l'information, et je suis passé par tous les dispositifs que la France met en place pour pouvoir nous faire venir ici.
Campus France,
Parcoursup, etc.
Parcoursup, etc. Okay.
Nancy n'était pas forcément mon premier choix, parce que Parcoursup, en fait, pour faire simple, on fait plusieurs choix et après, là où on a accepté, on va, tout simplement.
D'accord.
J'avais préféré peut-être Lille ou Paris, comme la dame l'a dit, mais finalement, j'ai fini à Nancy et je ne suis pas déçu, parce que c'est effectivement une très très bonne ville étudiante qui donne, on va dire, beaucoup d'opportunités aussi pour l'avenir. Et puis voilà.
Très bien.
Et toi, Coco ?
Eh ben moi, il faut dire que j'ai déjà, je me sens plus à l'aise à Nancy aujourd'hui que dans n'importe quelle ville où j'ai pu être en France. C'est-à-dire que je sens que le territoire nancéen, c'est un territoire qui m'a accueilli, qui m'a permis de pouvoir devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, pour l'information, moi, je suis ingénieur génie civil de base et j'ai fait mes études au Ghana. J'ai fait un bachelor. Après mon bachelor, j'ai rencontré donc mon épouse. On a fait le projet, on a construit le projet de venir s'installer donc en France. Elle est française donc de base, et elle voulait repartir en France. Donc on est parti s'installer d'abord à Lille, et puis elle a eu un contrat sur l'université de Lorraine. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri à Nancy, et moi je postule à un master 2 où je finis par décrocher un master 2. Donc j'ai cette chance là d'avoir été dans un appartement avec ma chérie pendant un temps, de voir ce qui se fait dans le cadre d'un citoyen lambda qui travaille, puis après d'intégrer le milieu étudiant. Et depuis, finalement, cette prise de hauteur m'a permis d'avoir on va dire tout ce qu'il y a comme problématique, d'être conscient des problématiques des étudiants et de voir comment le cadre finalement peut changer de l'appartement à une résidence étudiante. Donc vraiment, on aura l'occasion de décortiquer tout ça. Je suis tellement content d'avoir un plateau riche en parcours ce matin. Et je vous assure que nous allons vraiment passer un très bon moment, parce que j'ai des petites surprises pour vous.
Ok.
Donc merci. on va se retourner vers Ames. Ames, dis-nous donc qu'est-ce que tu as fait comme études quand tu es arrivé, et est-ce que donc du coup l'accueil, d'abord, est-ce que ce que tu pensais de la France quand tu es arrivé, ça a été à la hauteur de ce que tu t'attendais à voir, ou bien tu as été plutôt déçu, ou tu as été waouh?
Alors, question un petit peu complète. Mais oui, ce que j'ai pensé quand je suis arrivé, malheureusement, c'était au début d'une pandémie.
La Covid.
en plein Covid. Malheureusement, j'ai été bloqué, au début. En arrivant sur Paris, j'ai dû rester un peu sur Paris, le temps de m'organiser pour venir sur Nancy. Et une fois arrivé, tout le monde était confiné. Et du coup, je suis resté un peu bloqué chez moi. Mais oui, comme mon partenaire Monsieur Ayibou l'a dit, ça m'a permis aussi de prendre un petit recul, d'analyser un peu le mode de vie des gens en France, déjà, pour commencer. Et de me renseigner, et voilà, de suivre, de commencer mon parcours. Parce que j'ai commencé, faut le dire, avec l'AFPA. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait que l'AFPA qui était ouvert, qui acceptait...
Et c'est quoi l'AFPA? Tu peux nous dire un peu plus?
L'AFPA, c'est un centre de formation.
D'accord.
Qui ils font beaucoup de choses. Ils forment les gens en BTP, que ça soit en bureautique, d'après ce que j'ai appris. Mais moi, j'y étais plus pour du BTP.
D'accord.
Je m'intéressais plus au bâtiment. Je voulais apprendre à bricoler, donc je me suis lancé dans une remise à niveau pour commencer. Et ça a duré 3 mois. Après, à la suite de ça, j'ai fait un stage à Pompée, à Rexel, Rexel France. Et après mon stage, c'était le confinement. C'était difficile de trouver un boulot. Donc on a été confinés un petit moment encore. Le temps de encore se reprogrammer et se relancer. Aujourd'hui... remercions le Seigneur parce que ce cauchemar est passé. Nous avons perdu des proches et nous l'avons vécu mal. Et bah, c'est la vie. On ne l'a pas souhaité. Bah, nous sommes dedans. Alors voilà, ouais. Nous allons nous battre.
C'est clair.
Il faut. Et,
bah, oui,
et
bah,
il faut. Un parcours de combattant, en tout cas, digne de ce nom.
Ouais, et c'est, ça, c'est rien de le dire. C'est que le début.
C'est que le début. Je vous assure. Ouais. Et bah, du coup, après Paris, comment tu t'es lancé finalement sur Nancy ? Il y a eu un objectif qui t'a amené à Nancy ?
Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était pour une raison familiale, donc un rapprochement familial. D'accord. Et donc, en arrivant ici à Nancy, j'ai pu poursuivre la branche dans laquelle j'avais déjà commencé sur Paris. Voilà.
Bien. Et c'était quoi comme branche, du coup ?
Alors, c'est tout ce qui concerne la restauration
oh,
et la vente.
Oh, parle-nous-en, j'adore la restauration.
Voilà. Qui n'aime pas la restauration ?
La nourriture.
Ouais. Qui n'aime pas ça ?
Les bons menus.
Vas-y, dis-nous.
Donc du coup, pour mon parcours, j'ai commencé par faire 2 ans en CFA, donc pour un CAP. Donc du coup, j'ai effectué cette formation qui avait comme issue l'obtention du CAP.
Oui.
Et ensuite, du coup, après l'obtention de mon CAP, je suis passée en 1 an de formation de serveuse.
Bien.
Voilà, pour pouvoir continuer en fait sur la même branche. Et en fait, arrivé ici à Nancy, je veux clôturer. Donc, si demain je dois ouvrir une entreprise, pour clôturer en fait là tout ce que j'ai appris durant mon cursus.
Et donc, si j'ai bien compris, votre formation s'est passée à Paris, et là maintenant vous venez d'arriver sur Nancy pour pouvoir vous mettre à votre compte.
Non, ça fait déjà 2 ans que je suis à Nancy. Voilà. Donc du coup, j'ai continué aussi.
Aussi une partie à Nancy, et là vous avez comme ambition de créer votre propre.
Plus tard, bien plus tard.
Auto-entrepreneur.
Si c'est possible.
D'accord,
voilà,
d'accord, d'accord.
Ah bah c'est bien ça. Franchement, ça a été facile de pouvoir intégrer finalement, parce que j'imagine que vous êtes arrivé, la classe, c'était quand même avec des petits blancs qui vous avaient accueilli, non ?
Alors, la majorité, oui, mais donc nous étions pas, enfin, j'étais pas seule en tant qu'étrangère. Voilà. Donc, du coup.
Oui, mais j'imagine que vous n'étiez pas seule, mais c'est pas cette partie qui m'intéresse. Nous, on veut parler de comment vous accueillez dans la formation ceux qui, effectivement, sont, par exemple, des Blancs, qui sont nés ici, qui sont français.
D'accord.
Est-ce que vous avez plutôt senti un accueil d'intégrer le groupe ou bien vous avez plutôt été, en quelque sorte, mis de côté ? C'est l'occasion de le dire, hein ? Sans tabou.
Alors, il n'y a pas de souci. Non, je n'ai pas été mise de côté par quiconque. Par contre, ça peut arriver des mésententes.
Bien sûr.
Voilà, entre voilà.
Ah ben voilà, voilà un peu ce que je voulais savoir aussi. Ouais. Et vous d'ailleurs, mais je vous ai pas posé la question dans votre formation de BTP.
Oui.
Vous étiez avec des confrères, j'imagine, qui sont
un peu
d'ici.
Venus d'ailleurs, d'ici d'ailleurs. Ouais, j'étais pas le seul. Hein. On va dire que. Il y avait des Arabes, il y avait des gens de l'Est, il y avait un peu de tout, il y avait des Français.
Ouais.
D'ailleurs, notre moniteur, c'était un Français, d'ailleurs, très bel homme, gentil et tout.
Oui.
Ouais, il s'est bien occupé de nous. Ouais.
Ah.
Et, en tout cas, on a eu la chance parce que, effectivement, ça peut arriver que, bah, voilà, qu'il n'y ait pas d'entente entre les gens, surtout les nouvelles têtes qui viennent d'arriver, parce que ça se remarque tout de suite.
C'est clair.
Quand on est nouveau.
Ça, c'est sûr.
Et sinon, oui, non, l'intégration, elle était bien.
Ça s'est bien
passé. Dans le respect, ouais.
Je me tourne vers Roméo parce que du coup, là, c'est un autre parcours en plus, effectivement, avec un autre cadre universitaire. Comment, finalement, les mêmes questions, ça s'est passé en classe la première année? Quand tu arrives, vous êtes quand même un peu perdu ou vous avez tout de suite retrouvé vos repères?
Oui. Ben, déjà, pour moi, c'est un peu différent des deux invités parce que moi, j'étais en licence, du coup, c'est très généraliste. Donc on peut être environ 200 dans une même salle.
Oui.
Du coup, c'est vrai qu'au début, c'est très très compliqué de s'intégrer. C'est très compliqué de se faire des amis parce que tout le monde fait sa vie et certains ont déjà leur groupe d'amis. Du coup, moi, j'ai eu la chance du coup de rencontrer un étranger comme moi qui venait d'arriver, qui était sénégalais. Je me rappelle de lui. Il était sénégalais et c'est grâce à lui que j'ai pu m'intégrer plus facilement. Et on a pu s'aider de manière coopérative, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des groupes, tout ça. Mais sinon, à part ça, quand je suis arrivé à Nancy, très belle ville, intégration assez facile. Tu demandes de l'aide, Non, en général, tu en as. Des fois, tu n'en as pas, c'est vrai. Des fois, des personnes ne veulent pas forcément t'aider, mais c'est les risques qu'on prend en arrivant ici. Quoi.
Puis, il vaut mieux demander que.
Ouais, voilà, quand tu es perdu, tu es obligé de demander.
Trouve. Oui, comme on le dit.
Parce que, ouais. Oui. Ben. On va faire une petite pause musique.
Et quand on reviendra, moi, je vous parlerai du coup de la mienne d'intégration.
Oui, bien sûr.
Ça marche, il n'y a pas de souci.
On va se quitter sur une petite musique ivoirienne. On va se quitter sur Ayoka de Dobé Gnawé.
Allez, let's go.
On est de retour sur Radio RCN pour parler de l'Afrique. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui le sujet c'est l'intégration des étudiants sur Nancy et en France en général, des étudiants étrangers, noirs, arabes, etc. Nos deux invités nous ont un peu expliqué leur parcours jusqu'ici et on va maintenant écouter mon collègue Coco qui va lui aussi nous raconter son parcours, son intégration, comment il s'est intégré, ce qu'il pense de son début en France, etc. À toi la parole.
Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Roméo. Je suis très fier de votre parcours déjà, hein, de votre côté, parce que c'est des, on va dire, classiques, hein, où on passe tous par là, où à un moment donné, on a besoin de pouvoir avoir sur quelqu'un qui puisse nous tendre la main,
nous guider, quoi.
Et nous guider, c'est ce que je voulais en fait qu'on ressorte un peu dans notre intégration. Est-ce que certains, quand ils arrivent, malheureusement tombent sur des situations où ils n'ont pas eu cette main tendue,
oui.
et là on est plutôt dans un cadre où on va dire à peu près nous tous on a toujours eu cette chance pour toi avec le Sénégalais. Toi, tu as fait un éloge à ton responsable de formation. Ouais. Et puis toi, forcément, ça s'est plus ou moins bien passé aussi. Et ben moi, je dirais que finalement, je suis celui qui a peut-être eu un peu plus du mal. Parce que quand je suis arrivé, il faut dire que je fais tout mon parcours d'ingénieur en anglais. Et quand j'arrive, c'est pour la première fois que j'intègre une formation de génie civil en français. Même si je parle français, techniquement, je découvre finalement le métier en français.
Ouais.
Et là, j'intègre un Master 2 où toutes les... Roméo venait d'en parler, c'est-à-dire les petits groupes se sont déjà formés depuis la première année, la deuxième année.
C'est chaud, ça.
Ils arrivent en Master, enfin, c'est leur petit groupe.
Ils se connaissent, quoi.
Et c'était impénétrable, ouais. Exactement. Donc, j'arrive, on était deux Noirs, il y avait un Rwandais.
Hein?
Et j'étais le Togolais, donc heureusement comme il parlait anglais, donc du coup finalement la connexion s'est fait très vite, du fait que la langue nous a reliés. Il se débrouillait pas mal en français, mais il faut dire qu'il était plutôt à l'aise quand on parlait en anglais, donc du coup tout de suite la connexion s'est faite. En fait, je sais pas si vous avez tous eu ce moment dans votre classe où le professeur vous dit à tel sujet sera fait en équipe et donc former des binômes, et puis les gens se regardent et puis on se regarde, on se dit oula.
Je suis perdu. Ah
ouais. Qui va m'accepter dans son groupe ou faire un groupe avec moi?
Exactement.
Et finalement, j'étais naturellement avec le Rwandais seul à se retrouver. En fait, on n'a même pas fait exprès. C'est juste qu'ils ont fait leur petit binôme sans forcément nous intégrer. Et puis nous, on était les deux qui étaient assez sur la touche. Vas-y, tu voulais dire quelque chose?
C'est intéressant que tu parles de ça parce que quand je me rappelle, effectivement, j'ai eu à vivre un cas similaire parce que dans ma formation, il y avait un, je ne sais plus exactement, je me rappelle plus de son origine, mais c'était un Syrien, je pense, ou un truc comme ça. Et ce monsieur, avait du mal pour s'exprimer en français. Donc, il parlait anglais, par contre. Et vu que dans mon cas aussi, vu que moi aussi, je m'exprime plutôt bien en anglais, ça a été comme une chance pour lui, parce que, effectivement, comme tu viens de le dire, il fallait par moment faire des petits groupes. Et du coup, on avait des devoirs et tout, donc lui, il était perdu parce que le moniteur, c'est en français, et il parle pas l'anglais et tout, donc voilà, le monsieur-là, j'étais obligé de faire équipe avec lui. Et derrière, ça l'a fait trop plaisir d'avoir quelqu'un qui comprenait sa langue à côté de lui pour l'expliquer
tout à fait.
Comment ça se passait et tout. Ouais.
C'est vrai que ce sujet-là, c'est très important, hein, comment créer des groupes, tout ça. Moi aussi, je l'ai vécu. À un moment, tu regardes tout le monde, tu vois, tout le monde fait des groupes. Ou surtout quand le prof dit, mettez-vous en groupe dans la classe, déplacez-vous. Toi, t'es là, tu restes dans ta chaise, tu regardes. et après, tu cherches peut-être quelqu'un qui est comme toi, qui a personne. Et après, tu le rejoins, tu le dis,
exactement.
Ça va. Et c'est maintenant, et c'est comme ça qu'on fait des connaissances en vrai.
Exactement.
Parce que c'est presque un mal pour un bien. Hein,
exactement. Donc finalement, on va dire, c'est un groupe par défaut que vous
par
faites.
Par défaut, certes.
Et c'est juste le petit moment où tu te sens un peu finalement seul.
Seul,
laissé. Mais ça, c'est normal. Hein. Même nous, on aurait été dans nos pays respectifs, on nous aurait dit de faire un groupe. Je pense que tout de suite, tu sautes sur ton meilleur ami tu essaies de faire un groupe.
Ouais.
Alors, on le dit sans forcément, je veux dire, rancune. C'est vraiment sans rancune.
Oui,
mais c'est des choses qu'on a vécues. Et justement, nous, aujourd'hui, sur ce plateau, l'objectif, c'est de pouvoir parler de ces petits instants un peu gênants, un peu... Finalement, aujourd'hui, avec le recul, comme tu l'as dit, on a finalement gardé de très beaux souvenirs de ces groupes par défaut, comme on le dit. Oui, qu'on a fait.
C'est comme ça que des grandes
toi avec le Syrien, et puis toi avec le Sénégalais, ou je ne sais pas qui d'autre, mais moi, franchement, ce Rwandais, en son honneur aujourd'hui, je dirais la vache, parce que c'était vraiment une expression qu'il adorait, et il disait toujours la vache. Et donc, c'est quelque chose qu'il a toujours remarqué. Et quand on s'appelle, du coup, aujourd'hui, allô, la vache, comment ça va?
Ouais, c'est devenu un slogan.
Un slogan, ouais. Et donc en fait c'est un terme, je crois, qu'il a beaucoup impressionné dans la langue française, ouais. et qu'il a toujours voulu, il le sort finalement, il le sortait en fait, il le plaçait partout, il pouvait dire la vache, ça sortait naturellement, et c'est, moi je l'ai remarqué, donc on se taquinait la vache, mais pour aller un peu plus loin dans mon intégration, c'est vraiment... À partir de cet instant où j'ai fait mon binôme avec ce Rwandais, que nous avons maintenant pu rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as comme compétence,
exactement,
qualité en fait, finalement, en tant que personne déjà, et en tant qu'étudiant dans ta filière. Donc oui, c'était beau d'être deux noirs dans un groupe, mais je veux dire, il fallait monter un projet, il fallait présenter le projet, il fallait faire des calculs de structure, parce que pour rappel, moi j'ai fait un master spécialisé en structure, matériaux et énergétique du bâtiment. Donc c'était des niveaux de calcul qui étaient quand même très poussés, et la chance que j'ai eue, vraiment, c'est là où je dis toujours que la mathématique m'a sauvé. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été bon en sciences, donc d'une manière générale, tout ce qui était calcul et tout ça, ça me faisait pas peur. Et en classe, finalement, au fur et à mesure qu'on nous donnait l'opportunité d'assister à des cours, de discuter ou d'aller faire des démonstrations au tableau, et que les professeurs ont demandé souvent en classe, bah, qui veut aller au tableau pour faire telle ou telle chose, et que j'y allais, le fait de pouvoir descendre des équations avec une certaine aisance et d'expliquer aussi derrière ce que je faisais, parce que des fois, le professeur faisait donc des fois des démonstrations, et moi je prenais la peine, par exemple, de lui expliquer que j'aurais fait ça, mais d'une autre manière, et je ne sais pas si je l'ai fait de cette manière-là, en examen, il m'aurait accordé, par exemple, la note. Donc, j'allais au tableau, je démontrais par A plus B ma méthode, qui finalement arrivait à la même réponse,
qui aboutissait à la réponse,
et le professeur était finalement lui-même impressionné, parce qu'il disait mais il l'aurait pas fait ainsi, mais il comprend ma méthode, et donc finalement dans la classe ça m'a donné en quelque sorte un respect, que j'ai gagné une certaine notoriété aussi, il faut le dire. Et donc derrière, quand on demandait à faire des groupes de travail, tout le monde me voulait dans son groupe finalement. Donc on voit un peu la première phase d'intégration, parce que comme je disais, naturellement, l'inconnu, tout le monde a peur de l'inconnu. Ouais. Mais une fois que les gens commencent à savoir qui tu es et qu'est-ce que tu représentes, que ça soit comme bagage ou comme valeur humaine, bah, que tu as comme valeur humaine, ça permet à ce que les approches soient beaucoup plus faciles. Donc aujourd'hui, je suis tellement content de parler de ces petits moments que finalement, je n'ai jamais... Parce que c'est des journées où quand tu rentres à la maison, tu as tellement d'autres choses à faire.
Ouais.
Bon, en plus, moi, dans mon cas, j'étais marié. Donc tu rentres, il fallait gérer des problèmes de la famille, s'occuper de mon gosse, je suis parent d'un petit loulou de 6 ans. Donc forcément, tu as pas cet instant-là comme ça où un matin à 10h, on est en train de parler de ce que j'ai vécu à l'école il y a 5 ans. C'est pour moi une joie de pouvoir vous faire partager ça, et surtout que vous avez aussi vécu ça, mais à votre manière. Donc bon, cette intégration dans la classe de master s'est fait finalement aujourd'hui. J'ai des amis qui travaillent dans plusieurs domaines avec qui j'ai gardé contact, et ça se passe très bien. On se file des bons contacts et notre réseau s'est un peu construit comme ça. Et moi, je voulais justement valoriser finalement l'accueil que j'ai eu à Nancy, et me dire que franchement, je ne suis pas du tout tombé dans une ville où, contrairement à ce que j'aurais, parce que j'appréhendais énormément, j'aurais peut-être cru, parce qu'on entend tout et rien sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais vraiment, pour nous aujourd'hui des Nanciens, je veux dire, il y a plutôt un vécu sur le territoire, un brassage de la culture qui vraiment fait que cette ville est très riche, que ça soit par ses étudiants ou que ça soit par ses habitants sur Nancy. Alors, je laisse la parole à Roméo pour nous dire comment aujourd'hui, finalement, il se projette par rapport à cette ville-là. Est-ce que c'est une ville juste où il fera des études et il partira? Ou bien, comme moi, Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler dans le nucléaire à Clermont-Ferrand, au Mans. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur contrôleur. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Nancy. Et j'anime cette émission pour la plus grande joie que je pourrais effectivement avoir, parce que c'est pour moi un honneur de revenir finalement à la source, comme je disais au début, hein, que Nancy pour moi c'est un peu comme si je suis un nouveau-né à Nancy. Ah, ouais. Et donc de me dire que je suis revenu à la source aujourd'hui, c'est une fierté pour moi et je le souhaite pour vous. Mais est-ce que déjà il y a un projet, une ambition concrète avec Nancy?
Comme j'ai dit, quand on vient en France, c'est toujours pour un projet. On a toujours un projet, on veut toujours aller plus loin, parce qu'on sait qu'en Afrique, il n'y a pas forcément les mêmes, comme l'a dit MS, les mêmes infrastructures, les mêmes opportunités.
Effectivement. Parce
que, on a toujours des projets. Après, un grand projet que je pourrais avoir, c'est peut-être pouvoir retourner dans mon pays. Prendre mes études, reprendre dans mon pays et ramener peut-être à mon pays ce qu'il n'y avait pas, ce qu'il n'y a pas forcément. Comme moi, je fais de la communication, peut-être ramener, je sais pas, une boîte ou quelque chose comme ça, qui pourrait peut-être revaloriser un peu mon pays, le rendre un peu plus fort, parce que bon, il en a besoin quand même. Mais sinon, par rapport à ton discours, il faut vraiment le prendre en compte et accepter tout ce que tu as dit, parce qu'en fait, tu as dit beaucoup de choses qui sont très très réelles. Tout ce qui est groupe, etc., tout ce qui est l'intégration, tout ce qui est le fait aussi que parfois, nous, on doit se battre un peu plus que les autres pour pouvoir trouver une place. Comme tu l'as dit, t'as dû montrer à tout le monde que tu savais faire plus que les autres pour qu'ils t'acceptent dans le groupe. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que peut-être nous, les étrangers, on a peut-être plus à faire que les autres.
En parlant de ça, justement, vous avez raison, parce que nous, on a eu la chance d'avoir une bonne intégration par rapport à nos cultures et à comment on s'est débrouillé, à nos façons de faire, on va dire.
À nos valeurs.
Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne seront pas dans nos cas? Parce qu'on peut le dire, il y a plein de choses qui se passent quand tu arrives sur un territoire et que tu ne connais pas forcément, le mode de vie des gens. Parce que moi, j'ai vu des gens galérer, des gens qui étaient là et qui ont eu du mal à s'intégrer et qui n'étaient pas forcément des génies, qui ne savaient pas forcément se démarquer en société. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ces gens-là, c'est triste de le dire, mais oui, il faudrait que, que nous puissions trouver ou inventer quelque chose pour
un dispositif
d'intégration, par exemple.
Il en existe, c'est vrai, mais ils ne sont pas forcément mis en valeur.
Surtout, je pense. Ouais. Sinon, oui, se sentir comme le X dans une équation. C'est ça,
le paramètre inconnu.
On va dire que les mathématiques s'appliquent dans la vie elle-même.
Oui, complètement.
Ça l'a beaucoup aidé, je pense.
Tout à fait. Il a développé.
Mais imaginez un seul instant, pour reprendre effectivement ce que tu disais, que j'avais rien à proposer comme effectivement capacité de me démarquer, ça aurait peut-être effectivement me sombrer dans une solitude pas possible.
Comme j'ai dit, il faut toujours se démarquer, on va dire. Mais pour revenir sur un point que tu as évoqué aussi sur ta famille, c'est un point aussi qu'on peut évoquer, parce que là on parle plus de tout ce qui est école, mais qu'est-ce qu'il en est de la vie à l'extérieur de l'école? La vie des étudiants, des étrangers, etc. de l'école, parce qu'on sait que ce soit niveau financier, intégration, activités à faire, etc., c'est quand même aussi très très compliqué.
C'est un sujet, j'aime bien la manière dont tu l'introduis, puisque ce serait justement ce qu'on va aborder dans notre dernière phase, après peut-être une petite pause qu'on va marquer dans quelques instants, où on pourra revenir justement sur comment l'étudiant cherche un job étudiant, enfin quand il arrive,
la prise en charge en elle-même.
Exactement, ouais. Donc est-ce que nous, on a peut-être des choses aujourd'hui qu'on peut dire sur ce plateau, qui permettront à ceux qui nous écoutent de pouvoir peut-être suivre nos pistes. C'est aussi l'objectif de cette émission-là.
On est là pour sensibiliser, on est là pour aider, on est là pour tout. On est là pour tout et c'est vrai qu'il faut
innover,
en parler.
Parce que
tout ce qui est job étudiant, comme tu l'as dit, c'est un facteur très important. Je pense que beaucoup d'élèves étrangers qui viennent en France cherchent directement un job étudiant. Parfois même le mettent même en haut de leurs études parce qu'ils ont des fins de mois à payer, tout ça, des loyers. Parfois certains n'ont même pas de famille qui les subventionne, etc. Donc c'est vrai que même la vie à l'extérieur des études, c'est très compliqué. Et maintenant, imaginez quand il faut combiner études, travail, c'est vrai que c'est très très fatigant comme train de vie. Comme l'a dit Coco, on va en parler juste après une petite pause musicale. On va écouter un son du Togo, parce qu'on est entouré de Togolais aujourd'hui.
Merci.
On va écouter un son de Toufan, intitulé C'est pas normal.
Il a le way, il faut juste follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal.
C'est Toufan.
All eyes on me,
tout ce que je fais,
mais c'est grâce à lui. Hello baby girl, rentre dans la boba.
On va faire un Bessie today.
C'est pas non normal.
Flash, cash, spend money. Manger la vie, y'a pas souci. Bessie, hold it man. Signer le chèque, y'a ma tonne man.
Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal. C'est pas non normal.
Ils t'ont lancé caillou, Dieu n'a pas dit non. Ils t'ont craché dessus, Dieu n'a pas dit non. Tu as pardonné, ah il t'a béni. Tu as mélangé, tu as retourné, c'est béton. Tu as construit maison,
oh,
Baba God t'a béni. Caillou devient béton,
oh,
Baba God t'a béni.
Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non non.
Ici sur Radio RCN, on parle de l'intégration des étudiants avec mon collègue Coco et nos deux invités. Alors juste avant la petite pause, on parlait justement de l'intégration des étudiants dans les études à l'école. Et maintenant on va parler justement de la vie étudiante en dehors de l'école, parce que ça il faut en parler, c'est aussi très très important, voire plus important des fois pour les étudiants que la vie à l'école elle-même. Tu peux nous dire peut-être ton ressenti sur cela, comment tu l'as vécu, c'était comment ta vie extérieure de l'école peut-être, tout ce qui est, je sais pas, les trucs les plus simples, faire des courses, trouver un travail, comment ça s'est passé pour toi?
Alors, trouver un travail, il faut d'abord pouvoir postuler, il faut aussi faire des formations pour développer le savoir-faire, le savoir-être, voilà, de trouver ses compétences pour pouvoir se démarquer, voilà.
C'est vrai que quand tu arrives ici en France, on te demande beaucoup l'expérience.
Ah oui.
Oui.
Alors moi, en parlant d'expérience, d'ailleurs, j'ai eu parce que moi, au départ, j'étais plus, j'étais tourné vers l'armée. J'aimais, tu vois, oui, la sécurité, oui, tout ça. Et faut le dire parce que chez moi, avant de quitter, j'ai eu à faire des formations et tout. J'ai déjà exercé dans le corps de sécurité, j'ai fait de la surveillance. J'ai commencé à mes 15 ans d'ailleurs.
Ah.
Moi, j'ai travaillé la première fois à la foire internationale de Lomé en tant que surveillant et tout.
Ouais.
Et après, j'ai eu à faire la formation elle-même.
Ouais.
Donc, j'ai été agent de sûreté, surveillant, escortage privé.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Et quand je suis arrivé là, j'ai voulu trouver un boulot comme ça pour compléter
sur ce secteur là,
ouais, pour avoir un mode de vie un peu,
oui, tu vois,
pour me démerder. Et bah non, c'était compliqué parce qu'il fallait refaire une remise à niveau,
ouais,
et Et pour quelqu'un déjà qui a fait ses preuves dans un métier, même si oui c'est pas pareil parce que on a des différentes cultures, on a pas les mêmes choses, c'est vrai, mais oui ça a quand même été un peu difficile parce que oui sur tout ce que nous faisons chez nous, bah quand nous arrivons, quand nous voyageons par exemple, quand nous arrivons à l'étranger, bah il y a cette phase où il faut refaire une remise à niveau, il faut recommencer, ou voilà, et c'est ça qui est c'est un peu gênant aussi.
Oui, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que t'as dit, oui. pour moi personnellement, j'avais pas la même chance que toi parce que moi j'avais pas du tout travaillé avant, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment passé toute mon enfance à l'école, aux études, j'ai jamais eu vraiment de travail au Rwanda. Du coup, arrivé ici pour arrondir mes fins de mois, comme d'habitude, j'ai cherché un travail et c'était toujours la même excuse. Vous avez besoin d'expérience. Maintenant, comment est-ce que je peux avoir de l'expérience si j'ai pas encore travaillé? C'était la question.
Ouais.
C'est vrai que c'est. Et pour toi d'ailleurs, qui a déjà eu un travail, mais c'est quand même compliqué.
C'est compliqué.
Pour dire vraiment que.
Mais c'est là aussi que, voilà, c'est pour ça que j'encourage la jeunesse noire à se lancer, à ne pas attendre, parce que même sur les bancs, bah moi l'idée m'est venue quand j'étais encore sur les bancs, j'étais au lycée,
oui.
Quand j'ai eu à travailler, et bah c'était pour découvrir, c'était pour apprendre à faire déjà comment créer un CV, comment créer un dossier, comment l'envoyer, comment faire les démarches, et bah ça a été compliqué.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de commencer chez moi au pays. Sinon, j'avoue que ouais, ça aurait été très difficile une fois arrivé ici, parce que même avec la prise en charge sociale et tout, et encore des rendez-vous qui durent une heure ou deux, encore une fois par mois.
Par mois, ouais.
C'est très compliqué. Et bah oui, donc ouais. Voilà. Et j'encourage la jeunesse à aller chercher des informations, à faire le nécessaire, à se lancer dans l'autodidacte.
Ouais. À travailler, quoi.
Ouais, à travailler.
Et toi,
même si c'est pour rien, c'est juste pour avoir l'expérience, quoi.
Ouais.
Non, mais ce que vous dites là où c'est très intéressant, et j'aimerais justement mettre un point là-dessus, c'est que ça reviendra d'ailleurs sur la question que j'avais posée par rapport à votre ambition
ouais.
Dans les années à venir. C'est que aujourd'hui, nous, on est justement en train de décortiquer un tout petit peu les parcours que nous avons fait,
ouais.
Mais c'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif de se dire que peut-être quand nous, on était au bled, comme on dit souvent, peut-être les petites opportunités ou les mains tendues que nous aurions pu avoir, ou les personnes qui auraient dû nous alarmer sur le fait que, par exemple, Roméo, même si tu es au Rwanda et que tu n'as pas besoin de travailler parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'argent, mais tu vas peut-être, après quand tu auras ton bac, aller faire tes études ailleurs, et là tu auras besoin d'une petite expérience. Donc en ce moment-là, tu ne voyais pas l'importance de travailler.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, tu te retrouves à ce qu'on te demande d'une expérience que tu n'as pas.
Ouais.
C'est bien de dire qu'on me demande une expérience aujourd'hui alors que j'ai besoin même justement de travailler pour faire cette expérience. Sauf qu'en fait, là où les responsabilités sont partagées, c'est que tu aurais pu déjà au pays, même si tu avais le confort de tout ce que tu voulais et que tu n'as pas besoin de travailler, juste aller chercher ou quelqu'un qui aurait pu justement t'accompagner sur ça. Et c'est ce rôle-là que nous, on doit jouer aujourd'hui dans la vie de tous les millions de jeunes Africains qui sont au pays et qui sont peut-être aussi dans nos cas, qui n'ont pas... Bon, moi, j'ai eu la chance, mon papa m'a toujours traîné dans les chantiers, donc depuis tout petit, mais je veux dire, des profils comme Roméo qui n'ont jamais travaillé et qui arrivent en France... Je veux dire, il y a des millions.
Bah oui.
Et donc, comment est-ce que nous, par ces émissions, on attire la sonnette d'alarme, ou bien attire l'attention sur ces sujets pour que le jeune qui est en Afrique aujourd'hui et qui n'a pas forcément accès à l'ordinateur et qui ne sait pas que bah, quand il va venir en France, il aura besoin de ses cours. D'ailleurs, on en parle souvent hein, dans la manière dont les cours sont dispensés au pays et comment les cours sont dispensés ici. Beaucoup même dans des filières scientifiques arrivent en France et se rendent compte qu'ils n'ont pas cette facilité d'utiliser un ordinateur et tout.
Ouais.
Alors que c'est des cracks, c'est des... des, oui, c'est des génies. Oui. Mais tu le mets devant un ordinateur, il ne sait même pas saisir un test.
C'est ça. Alors que les gens ici, ils le font très, très naturellement.
Ils le font depuis très longtemps.
C'est aussi le cas de ces scientifiques et mathématiciens là, au pays qui sont des génies et qui savent très bien résoudre, créer des équations ou créer dans la théorie, on va dire.
Dans la théorie.
Il manque justement la pratique.
Voilà. Et ici en France, on demande presque plus de pratique que de théorie finalement.
Exactement.
C'est ça le plus important.
Par exemple, ce sujet dont nous parlons, qui est d'être finalement la voix peut-être des jeunes Africains qui vont forcément venir dans les années à venir, et qui actuellement, à l'heure où on parle, se dit j'ai pas besoin de travailler parce que pendant les vacances je pars chez mon cousin, je pars chez ma tante, mais peuvent éventuellement intégrer, s'ils nous écoutent aujourd'hui, que donc peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, quand je serai au lycée, j'aurais besoin quand même de monter un dossier Parcoursup pour partir continuer mes études. Ouais. Donc il faudrait que je commence à accumuler quelques petites expériences, ne serait-ce que juste d'aller travailler dans un petit McDo ou je sais pas si on a cette chance chez nous, je sais plus chez vous comment ça se passe, mais au Togo, les McDo, c'est pas vraiment ça.
C'est pas trop
mais
ça.
Comment chez vous, quels sont les petits jobs que vous pourrez conseiller à une jeune africaine ou un jeune africain qui vous écoute aujourd'hui, à dire, même si ce n'est que ça d'expérience à aller chercher, ce serait déjà bien sur son CV pour que il ne soit pas dans le cas de Roméo avec un CV vierge, par exemple.
Ouais.
Alors, cette personne, elle peut commencer aussi en fonction de ses savoir-être et savoir-faire par aider dans son entourage pour développer ses propres compétences. Elle peut aider un peu partout à la maison, même ses voisins, par exemple, nettoyer le jardin, enfin... Proposer son aide de nettoyer le jardin, ça peut déjà lui donner une première expérience d'être, structuré.
C'est bien ce que tu dis, parce que moi, ça me rappelle que des fois, on valorise peu le fait qu'on fait des petits jobs informels.
C'est ça.
Chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont informelles. Donc, comme on se dit, on n'est pas dans un bureau, on considère pas ça comme une expérience. Alors que c'en est une. Moi, je te donne mon cas. J'ai aidé ma maman à vendre des gâteaux.
Oui.
Et effectivement, ça m'a développé quoi ? Le sens de l'économie, le sens de se lever tôt.
Le service client.
Et le service client, c'est-à-dire comment accueillir quelqu'un qui vient acheter. Et ça, c'est des choses peut-être chez nous qui ne sont pas dans des grosses boîtes ou bien dans des grandes entreprises, etc. Mais c'est des choses qu'on peut leur dire de valoriser un peu plus souvent quand on leur parle. Peut-être même que Roméo qui dit qu'il n'a pas d'expérience, peut-être t'en as, mais comme tu n'es pas pour toi, ce n'était pas un contrat que tu as signé, tu n'arrives pas à en parler. Et ça, c'est notre rôle de leur dire ou bien de les accompagner sur comment valoriser finalement leur parcours. Parce qu'ils ne savent pas que dire que j'ai vendu des gâteaux dans mon quartier est une expérience professionnelle.
Ça commence en bas.
Ça rentre dans le marketing. Oui,
tout à fait.
De toute façon, on ne peut jamais commencer de très haut. Donc il faut toujours commencer en bas et construire un parcours par rapport à ça. Mais ouais, des petits jobs, tout ce que tu peux faire pour ta maman, pour ton papa, tes voisins, etc., ça peut t'aider, parce que même quand tu n'as pas d'expérience comme moi, tu vois un entretien, on te demande de faire, par exemple, une simulation de service client. Toi qui as vendu des beignets avec ta maman, tu sais le faire.
Bah oui, comment t'accueilles un client, le sourire, tout ça, c'est des choses
proposer
que j'ai
son produit,
acquis très très tôt. Donc aujourd'hui, c'est peut-être ça qui me définit.
Ça me rappelle, j'étais tombé sur un documentaire qui parlait du marketing, en question de la naissance du marketing.
Ouais.
Et c'était intéressant dans ce documentaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se fier à tout ce que nous voyons sur le net. Mais j'ai quand même fait une petite recherche et je me suis rendu compte que pour en arriver là aujourd'hui, le marketing, ça a commencé dans la rue. Ça a commencé dans... Vous étiez au courant ?
Oui, moi j'ai une idée un peu aussi du parcours du marketing, mais effectivement, c'est dans la rue que le marketing a commencé.
Aujourd'hui, ce qui paraît, c'est un sujet qu'ils étudient encore à Harvard, dans les grandes usines d'université aux États-Unis.
Oui.
Ils en parlent et tout, c'est quand même incroyable de savoir que la vie elle-même, elle t'enseigne. Parce que déjà, pour réussir dans la vie, et moi je sais parce que... j'ai grandi avec des personnes hein, que j'ai eu la chance, oui. Qui étaient responsables, ouais. Qui ont été responsables très jeunes et qui ont appris de la vie. Et il faut le souligner, il faut savoir déjà mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir créer ou avancer. Parce que quelqu'un qui ne sait pas faire le rangement, qui se lève un matin, on va dire, hein, et qui a son appartement complètement renversé, il ne sait pas où il a son bic, où il a son cahier, son tout ça, et il n'est pas du tout organisé. Bah, je pense que cette personne a plus de difficultés à émerger, à avancer
tout
dans
à
la
fait.
Vie. À être, parce que tout commence par l'organisation. Il faut savoir déjà ranger quand on parle de faire les petits boulots pour subvenir à nos besoins. Et tout ça, c'est de l'apprentissage. Et ça rentre dans les cordes.
Exactement. Ouais. Et donc, nous, on va pouvoir aujourd'hui, grâce à cette émission, apprendre, enfin, tirer toutes les différentes solutions que nous avons touchées pour voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être proposer comme nom de notre émission qui donne un sens tout de suite quand tu l'entends, ouais. Que le jeune qui nous entend ou l'auditeur qui nous entend sache que ça parle justement de comment aider les étudiants à trouver du travail.
C'était
et rapidement peut-être la liste des endroits où on pourrait éventuellement orienter nos étudiants qui cherchent du travail actuellement. Moi, je parlais de ne pas hésiter à aller pousser les portes d'un accueil du Crous,
à check-in point pour info.
Tout à fait. Ouais. Donc déjà l'accueil des Crous, toutes ouais. les différentes Crous, résidences Crous, je veux dire, il y en a 11, on peut toujours faire le tour. Mm-hmm. Il y a les restos U.
Les restos U, tous, même à l'université, tu demandes juste à l'accueil de trouver un
petit un job,
référent.
Un référent. Il y a aussi effectivement des comités de référence qui sont dans les résidences c'est étudiantes ça. Qui pourront toujours vous aider. Et ne pas hésiter à aller déposer des CV, c'est ce qu'on appelle la candidature spontanée.
C'est ça.
Donc vous entrez dans Lidl, dans un supermarché, vous déposez votre CV, vous dites que vous voulez chercher du travail et des fois, à la seconde, on peut vous dire, on cherchait quelqu'un, vous commencez demain. Donc, vraiment, il y a plusieurs après.
Sur ce plan-là, ça m'intéresse d'ailleurs que tu en parles parce que ici, il y a un petit problème. Le petit problème ici, c'est que c'est pas comme ailleurs. Bah, pour commencer un boulot, vous savez, si cette personne, si ce n'est pas un étudiant, parce que nous sommes dans le cas des étudiants, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont des étrangers qui vivent en France.
C'est vrai.
Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément
dans les études
et qui galèrent. Et donc ces personnes, il faut déjà savoir que pour trouver du travail, ils ne savent pas déjà comment créer un dossier. Ces gens, il faut qu'ils aient le temps d'apprendre à créer des dossiers. Ce serait bien que... qu'ils puissent se présenter en disant que je cherche un boulot, je sais faire ça, je sais faire ci, et qu'ils puissent être engagés à la suite.
Ça, c'est à l'américaine.
À l'américaine,
malheureusement, on est en France, et qu'il faut quand même un petit truc sur
quand
un papier.
Non, mais il faut me dire...
Ça sera l'objet
d'engagement.
Il faut se dire que si c'était comme ça, je pense qu'il y aurait plein de personnes qui travailleraient aujourd'hui.
Oui.
Parce que selon les statistiques, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas travailler. Mais est-ce que le truc, c'est... Qu'ils ne veulent pas ou est-ce qu'ils ne savent pas le faire?
Non, mais ça, c'est un très bon sujet qui pourra faire l'objet d'une autre émission et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé être en compagnie de vous parce que nous avons tous eu cette casquette d'étudiants et on a parlé d'un sujet qu'on maîtrise plus ou moins. Et on voit que nous sommes en train de tendre tout doucement vers la fin de cette émission. Et l'émission nous a permis de pouvoir vraiment donner peut-être un peu de lumière sur ces étudiants qui cherchent du travail. Et nous, en tout cas, je suis aussi fondateur d'une association qui s'appelle Eco-Attitude. Nous sommes aujourd'hui en train de permettre aussi dans notre cadre des activités écologiques, faire c'est le pont ou le lien ou réorienter des étudiants vers justement ces endroits où ils peuvent avoir des informations clés sur comment réussir à trouver un job étudiant. Donc, on aura l'occasion de parler des profils qui ne sont pas étudiants,
oui.
Mais vraiment, ça nous a fait plaisir de pouvoir vous avoir déjà. Nous vous remercions à nous
merci
inviter
à vous.
D'être venus et d'avoir maintenu le niveau du débat assez haut. Je ne sais pas si on laisse du coup le mot de fin à Roméo.
Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous engager, chercher toujours, n'abandonnez jamais parce qu'on sait que c'est difficile. On remercie nos invités.
Qui cherche trouve.
Qui cherche trouve, comme dit notre invité. On le remercie d'être venu avec sa chérie.
Merci à vous, merci. Le plaisir est partagé, c'est aussi propre.
Comme d'habitude.
Merci.
Et on vous dit à la prochaine sur Radio RCN pour les émissions sur l'Afrique. À bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Pastor P, respect man.
Nyumba, no go visit.
iby'urukundo ngukunda reka mbe kwibutse bacu atutaza byibagirwa mu magana yose yabeza bose ntawakuze imbere nyampinga urabahiga ubona kuvaho nkajya he
You're so beautiful
I wanna grow old with you
So beautiful
I swear to God I will always be there for Esi you Esi wana na kusiga Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Esi mbiru wana vishoboka Oh yeah, oh yeah, mama Nukuri isi na vikora Gerageje sinabishobora oh baby Hello baby now urabibona ko you're all I need so don't you walk away kubera ko you mean the world to me Oh, tuzarambana, tuzasazana, uri njye w'ibyo ni hame so nugira ubwoba mami
You're so beautiful
oh, I wanna grow old with you
So beautiful
I swear to God I will always be there for
Esi
you Show what I